6-9 de l'été sur France Inter.
Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
Sylvain Tesson, écrivain. Alors après Un été avec Homer, l'émission sur France Inter à l'été 2017, Un été avec Homer, le livre en 2018, Dans le sillage d'Ulysse avec Sylvain Tesson, la série documentaire sur Arte cette année, le beau livre donc cet été, Un été avec Homer, avec les tableaux de Laurence Bost et les photographies de Frédéric Boissonnat. Sylvain Tesson, vous n'êtes pas repu d'Homer, rassasié encore?
Mais qui peut l'être? C'est d'ailleurs l'une des choses que j'essaye d'exprimer dans ce livre. On peut faire son miel éternellement de l'Iliade et de l'Odyssée, puisque c'est un poème qui dit presque tout de nos vies, de nos questions, de nos interrogations. Alors on n'est jamais repu, jamais rassasié.
Vous vous souvenez, vous, de votre première rencontre avec Homer?
Oui, très bien. C'est une rencontre de cancre ordinaire en classe de sixième. Et on nous faisait apprendre des passages entiers de l'Odyssée. Et j'avoue que ça m'ennuyait beaucoup, parce que moi je regardais le ciel par la fenêtre et je ne voyais pas de dieu dans les nuages. Je ne voyais pas de combat titanesque, je ne voyais pas vraiment la représentation des divinités que Homère nous peint et nous chante dans son texte. Et j'avais davantage envie d'aller dehors que de suivre les aventures d'Ulysse.
Et donc, à quel moment ça revient dans votre parcours?
Eh bien, je l'ai retrouvé plus tard. Comme souvent d'ailleurs, puisque l'avantage de l'Iliade et de l'Odyssée, c'est qu'on peut cheminer toute sa vie et ça vous accompagne. Et selon que vous soyez un écolier de 12 ans ou un adolescent ou bien un adulte, vous le retrouvez avec un œil différent. Et le poème homérique imprime des choses tout à fait différentes sur votre esprit. Et sur votre être.
Sylvain Tesson, quand je parle de rencontre, je le dis à dessein, parce qu'on a l'impression dans vos écrits qu'il y a un dialogue entre vous et lui.
Je ne sais pas s'il y a un dialogue entre lui et moi. Toujours est-il que il y a une chose que moi j'aime saisir dans Homer, c'est l'inspiration très profonde et très présente et exprimée d'une manière quasi charnelle dans ce qui concerne la nature, les phénomènes climatiques, géologiques, tectoniques. On a l'impression parfois que le poète diffuse la géographie dans ses vers. Alors moi, j'ai été très sensible à ça. Et je suis d'ailleurs allé sous le ciel de la Grèce pour travailler à cette série d'été. Je suis parti m'installer sur une île et j'ai vécu dans la lumière qui probablement a baigné Homer. Alors, il y a une conversation, oui, que j'ai essayé de mener avec les éléments que, à mon avis, Homer a beaucoup perçus.
Mais il y a une vision quand même assez pessimiste de l'homme qui ne veut pas de la guerre, mais qui l'appelle quand même.
Oui, certes, c'est une vision tragique, une vision pessimiste. Les choses se passent toujours assez mal. Achille, dans l'Iliade, perd son ami. Achille, qui ne voulait pas participer au combat, y participe jusqu'à dépasser la mesure. Il devient fou et il va mourir. Et il arrivera dans les enfers. Et Ulysse le rencontre lors de son retour à Ithaque et croit que Achille est très heureux d'être le plus glorieux des hommes, dont l'humanité entière connaît les exploits. Et Achille lui répondra que non. Il aurait préféré, plutôt que d'être célèbre, continuer à jouir de la lumière, même le plus simplement possible. Mais il a tout raté. C'est souvent l'Iliade et l'Odyssée sont souvent les poèmes du naufrage et de l'échec. Oui, bien sûr, il y a une vision pessimiste.
C'est la vôtre?
Bah écoutez, moi j'écoute la radio le matin, alors comment ne pas être pessimiste?
Vous parlez effectivement du parallèle, vous dites les sirènes, on peut les assimiler aux GAFA, on parle de l'homme et la guerre. Où se trouve, par exemple, la crise sanitaire que l'on vit aujourd'hui chez Homer?
Mais j'ai à la fois très envie de vous répondre et puis en même temps je me retiens un peu, parce que c'est le grand plaisir dans la lecture homérique, c'est de trouver des similitudes avec notre époque. Et des allusions et des analogies. Et puis c'est l'écueil en même temps, parce que au bout d'un moment, vous ouvrez l'Iliade et l'Odyssée, vous en faites un bréviaire du temps contemporain. Alors ça a à la fois son charme et son ridicule. On peut dire que, je sais pas, que le Covid est un cheval de Troie, on peut dire que le Covid est une colère d'Achille, on peut dire que le Covid est une, je sais pas, est un oubli de tous les principes de la vie, comme celui auquel sont soumis les marins d'Ulysse quand ils arrivent sur les îles des Lotos. Enfin, on peut tout dire, mais quand on peut tout dire, ça veut dire qu'on ne dit rien. Alors moi, j'essaye de me prémunir de cet échec-là de l'analogie systématique.
Qu'est-ce qu'apportent les tableaux de Laurence Bost et les photographies de Frédéric Boissonnat en plus dans vos réflexions autour d'Homère ?
C'était une manière de vivre le poème. Je suis parti l'année dernière avec une équipe de tournage conduite par le réalisateur Christophe Rella pour la chaîne Arte. Et nous avons répété l'itinéraire de Victor Bérard, l'un des traducteurs d'Homère, qui au début du XXe siècle s'est mis en tête de recomposer tout l'itinéraire géographique d'Ulysse. Alors aujourd'hui, sa théorie, sa thèse est très contestée par les marins, et par les spécialistes, et par les hellénistes, et par les érudits, mais elle avait un charme, cette thèse, c'est qu'elle créait une discipline nouvelle et très poétique qui s'appelle la géographie homérique, et qui consiste à dire que Homère s'est inspiré des éléments physiques, les falaises, le vent, la mer, l'écume, la forêt, les troupeaux, et qu'il a regardé, tout aveugle qu'il était, il s'est inspiré des blasons physiques de la Méditerranée pour composer son poème. Alors nous, on a répété cet itinéraire en bateau, et moi, il m'a semblé plus que utile, il m'a semblé nécessaire de convier un peintre à bord. C'est ainsi que j'ai invité Laurence Bost à rejoindre l'équipage de notre bateau, et tous les jours, elle captait le motif de la journée, la substance de la journée. Ça pouvait être un rayon de soleil, ça pouvait être un animal, ça pouvait être le très beau visage d'un pêcheur ou d'une marchande de fruits de mer sur un marché. Et elle versait la substance de la journée dans son tableau. Et le soir, nous regardions ces tableaux sur le pont du bateau et nous regardions ce qu'elle avait saisi. Et alors, je veux pas avoir l'impression de prêcher pour ma petite paroisse archaïque et rétrograde, mais je trouve que je trouvais là qu'il y avait la supériorité profonde de la matière peinte, c'est-à-dire qui est passée par la sensibilité, par le jugement d'un artiste, et je trouve que il y avait cette supériorité de cette matière peinte sur toutes les images que nos machines, nos caméras, nos appareils d'enregistrement captaient. Parce que la captation cinématographique, elle passe par une interface technique. Et là, dans un tableau, il est annulé. C'est l'artiste qui s'adresse au monde. Vous parliez tout à l'heure de la conversation. Eh bien, elle existe vraiment. Tout d'un coup, un artiste regarde et dit ce que le monde lui a dit.
Vous dites dans le livre « Pourquoi ne fredonne-t-on pas les vers d'Homère comme les tubes d'été ?» et vous interrogez le poids de l'éducation nationale sur dans l'effacement des trésors homériques. Vous trouvez qu'aujourd'hui, on ne va pas assez vers ces lectures ?
Non, mais attendez, moi je n'interroge rien du tout. Je n'ai pas l'outrecuidance de m'adresser à un pédagogue. Enfin, qui serais-je pour cela ?
Enfin, vous êtes assez critique quand même.
Oui, mais ce n'est pas interrogé d'être critique. Moi, je ne pose aucune question et je me garderai bien de le faire parce que l'éducation nationale a ses certitudes qui, sans doute, sont tout à fait impressionnantes. Je trouve simplement que c'est parfois très triste parce que j'ai lu le journal de Heinrich Schliemann, qui était l'archéologue qui a découvert, à la fin du 19e siècle, le site de Troie. Et en Asie mineure. Et Heinrich Schliemann, dans ce journal, explique combien ses années d'enfance ont été baignées merveilleusement, poétiquement, de manière à la fois fantaisiste et riche par la lecture de l'Iliade et de l'Odyssée. Moi, ça m'avait beaucoup frappé parce que c'était un petit garçon qui venait vraiment de milieux tout à fait ordinaires de la fin du 19e et l'Iliade et l'Odyssée lui étaient très compréhensibles. Je crois que les enfants ont une capacité fantastique d'aimer et de comprendre ces fables. Il y a qu'à voir d'ailleurs le succès par exemple d'Harry Potter qui est une espèce de recomposition d'une mythologie assortie de tout l'assaisonnement contemporain, mais qui prouve cette capacité extraordinaire de l'enfant à accueillir l'imagination. C'est tout ce que je dis. Et je trouve dommage qu'on n'ait pas comme ça reçu davantage sous prétexte que je sais pas quoi, ça ne peut s'adresser qu'aux élites intellectuelles. Mais qu'en savent-ils? Que c'est vraiment un expert et un technicien de la pédagogie de l'amour d'un enfant pour le mystère? Christophe Honoré-Dibio, dans un livre qui s'appelle « Croire au merveilleux » publié chez Gallimard, dit la même chose, combien les enfants ont besoin de la mythologie antique pour traverser l'enfance et le royaume de l'enfance.
Donc il faut relire Homère, l'Iliade et l'Odyssée. Merci Sylvain Tesson.
Merci.
Un été avec Homère, voyage dans le sillage d'Ulysse, est paru aux éditions Équateur et c'est une coédition France Inter. Et puis, on continue aussi de vous réécouter toute la semaine, tous les matins de l'été à 7h55. Sylvain Tesson pour Un été avec Rimbaud.